L'autre jour, je discutais avec une élève dans mon cours de conversation Le Café Français, que d'ailleurs je vais bientôt rouvrir, et je pense que tu vas très probablement te reconnaître dans ce qu'elle a partagé avec moi. Elle me parlait de cette sensation très désagréable qu'elle avait eue pendant très longtemps, surtout avant de rejoindre mon cours, et c'était une sensation un peu difficile à définir en un seul mot. Elle avait l'impression d'être bloquée en français, elle avait l'impression de ne plus progresser, même si elle pratiquait quand même régulièrement. Ce qui était aussi très étrange avec cette sensation, c'est qu'elle avait déjà un niveau intermédiaire, donc elle comprenait tout ou presque tout. Par exemple, quand elle lisait, elle pouvait comprendre, elle pouvait lire des livres en français sans aucun problème, ou elle pouvait aussi écouter des podcasts ou même des personnes, donc des natifs, parler à une vitesse normale. Mais au moment de parler, son vocabulaire était toujours très basique et elle n'arrivait pas à parler français naturellement et couramment. Elle avait une sensation un peu d'inachevé en français, elle n'avançait plus en français. Et cette sensation assez désagréable qu'on peut avoir quand on arrive surtout au niveau intermédiaire a un nom. Et oui, c'est un phénomène qui s'appelle en anglais le learning plateau. Je le dis avec mon super accent français. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le plateau d'apprentissage, une sensation de stagner où on n'avance plus et c'est vraiment linéaire et on ne voit plus aucune progression. J'ai appris 7 langues, j'en parle 4 couramment et le plateau d'apprentissage ou le learning plateau, je l'ai vécu plusieurs fois. Si toi aussi tu as l'impression qu'il te manque ce je ne sais quoi pour progresser en français et que tu aimerais savoir quoi, vraiment, qu'est-ce que tu peux faire pour progresser en français et ne plus avoir cette sensation désagréable d'inachevé, j'ai une excellente nouvelle pour toi. J'ai créé une toute nouvelle masterclass totalement exclusive que je n'ai jamais donnée avant, dans laquelle je t'explique pourquoi tu as l'impression de ne plus progresser et je te donne tous mes secrets pour déplacer ce plateau. Cette masterclass dure 1 heure, c'est en français. C'est gratuit, c'est en ligne et c'est en direct avec moi et je répondrai aussi à tes questions à la fin de la masterclass. Il y a 3 dates et le contenu est le même dans les 3 masterclass. Donc il y a une masterclass le mardi 23 avril à 20h heure de Paris, une autre le jeudi le 25 avril 17h heure de Paris et la dernière c'est le jeudi 2 mai à 17h. Donc, si tu ne peux pas me rejoindre en direct, pas de panique, je t'envoie le replay et pour ça tu dois t'inscrire à une des 2 premières masterclass. Donc inscris-toi pour mardi 23 ou jeudi 25 et je t'envoie le replay. Mes élèves adorent mes masterclass, il y a toujours une ambiance de folie, c'est vraiment une fête et tu apprends énormément de choses. Je sais que toi aussi tu vas l'adorer et tu vas surtout débloquer plein de choses pour continuer à progresser en français et dire enfin et une bonne fois pour toutes adieu au plateau d'apprentissage. Pour t'inscrire, c'est facile, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecyasmine.com/MC, donc de masterclass MC, lefrançaisavecyasmine.com. Attention, le français c'est avec un C, pas avec un C, c'est dit, lefrançaisavecyasmine.com/MC de masterclass, lefrançaisavecyasmine.com/MC. J'ai trop hâte de te retrouver dans une des masterclass la semaine prochaine. lefrançaisavecyasmine.com/MC. Bienvenue sur le podcast Le Français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le Français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Dans cet épisode, j'ai un invité très spécial, le polyglotte Luca Lampariello. Si tu ne le connais pas encore, c'est un polyglotte youtubeur hyper connu, très talentueux, il a appris 16 langues et il en parle 10 couramment. 10 langues couramment, t'as bien entendu. Il a accepté d'être l'invité du podcast Le Français avec Yasmine et il répond à plein de questions super intéressantes sur l'apprentissage des langues et surtout sur l'apprentissage du français. Donc, il partage avec nous son parcours avec l'apprentissage de la langue française, comment il a boosté son français. Il est aussi le créateur d'une académie, il est language coach, donc il aide les personnes à apprendre, parce que c'est un concept qu'on n'apprend pas très souvent à l'école, par exemple. Et donc, il répond à nos questions, il partage son avis sur les accents, il partage son avis aussi sur parler français en 3 mois. Si tu suis le podcast Le Français avec Yasmine, j'ai fait un épisode à ce sujet il y a quelques mois et tu sais ce que j'en pense. Donc, il partage aussi son avis là-dessus. Il donne son avis sur les listes de vocabulaire et évidemment, il donne aussi des conseils pour rester motivé et comment apprendre une langue étrangère. Bref, tu l'as compris, cet épisode est passionnant. Il y a plein de conseils qui valent de l'or. Je veux absolument pas que tu rates une seule seconde de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Luca, qui va nous parler de son voyage avec la langue française, mais aussi les langues étrangères. Luca est un polyglotte, il parle je ne sais même plus combien de langues, je n'arrive même pas à les compter sur les doigts d'une main. Salut Luca.
Bonjour, bonjour Yasmine, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va, je suis à Cracovie, il fait très beau, donc je suis très content, comme d'hab.
Magnifique. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux te présenter?
Bien sûr. Alors, je suis Luca, je m'appelle Luca. Luca Lampariello, prononciation italienne, sinon Luca à la française sans S, et je suis italien, je suis de Rome, la capitale, et je suis à la base language coach, bien maintenant en fait je crée des cours pour sur l'apprentissage des langues, parce que ma passion en fait c'est éduquer les personnes, aider les gens en général, apprendre mieux, parce que c'est possible. Je me suis rendu compte, en fait, que tout dépend de nous. Et donc, j'ai commencé, à la base, j'ai commencé mon aventure sur YouTube il y a 13 ans. Et après, ça fait 30 ans que j'apprends les langues, des langues étrangères. Mais ça peut sonner, ça peut paraître un peu bizarre, mais à la base, je suis ingénieur électronicien. Donc, j'avais commencé une carrière, après, j'ai décidé de tourner, en fait, de changer de cap, disons, et j'ai commencé à travailler avec les langues, qui est ma vraie passion. Et donc, je suis très content parce que je fais ce que j'aime.
Tu as commencé avec quelle langue?
À part l'italien, bien sûr, parce que c'est ma langue maternelle. J'ai commencé avec l'anglais et le français à l'école. Donc, j'avais plus ou moins 10 ans. En fait, non, j'ai commencé avec l'anglais quand j'avais 6 ans, 6 ou 7 ans, parce que mes parents avaient décidé, en fait, d'embaucher une prof privée néo-zélandaise. Et donc, j'ai commencé comme ça à l'âge de 6 ans, plus ou moins. Et après, à 10 ans, j'ai commencé officiellement à apprendre l'anglais et le français à l'école.
Et quelle était ta première impression avec les cours de français à l'école?
Alors, je dois dire que généralement, comme je le dis toujours, j'aime pas la façon dont les gens on enseigne les langues étrangères à l'école, le système en général, tout, hein, c'est pas seulement les langues étrangères, mais je dois dire que quant au français, j'ai eu des profs excellentes. Donc, la première prof que j'avais eue et la deuxième, surtout la deuxième au lycée, m'ont passionné à l'étude du français, même si les techniques et tout ce qu'on faisait, c'était en fait traduction, dictée ou bien règles de grammaire. Donc, c'était assez traditionnel, la méthode. Mais de toute façon, je pense que être prof, c'est important de montrer la passion que tu as. Donc, elle avait beaucoup de passion pour l'apprentissage. Elle avait beaucoup de passion pour la langue française et la culture française. Donc, ils ont transmis cette passion. Et ça, c'était important pour moi. Mais au contraire, l'anglais, c'était un désastre. Donc,
Ah
pour l'anglais,
ouais.
c'était un désastre parce que la prof et les profs que j'ai eus, elles n'avaient pas envie d'enseigner, elles n'avaient pas de passion. Et donc, j'étais persuadé que moi-même, j'étais incapable d'apprendre les langues étrangères parce que je me rappelle la première fois que j'ai commencé l'anglais, c'était vraiment un désastre. Je me rappelle que à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé à travailler avec une prof privée, chez moi, la prof ne comprenait pas ce que je disais. Tu as été désastreuse, ma prononciation a été catastrophique. Et donc, je pense que l'école avait joué un rôle très, très important quand il s'agit de ma vision, de la vision des possibilités que j'avais, du potentiel que j'avais. J'étais persuadé que j'étais pas bon en langues étrangères en général.
Ouais, c'est terrible, hein, l'enseignement à l'école. Moi, j'ai grandi en Belgique, à Bruxelles, et c'était la même chose. Donc, j'avais des cours de néerlandais et des cours d'anglais, et c'était horrible, les deux cours, les deux profs, à chaque fois, pour tous les professeurs de néerlandais et tous les professeurs d'anglais que j'ai eu, ça s'est très mal passé. Alors moi, je me faisais passer pour l'élève qui avait des problèmes, tu sais, la mauvaise élève, mais on devait traduire des textes, le contenu était vraiment vieux, les livres aussi, c'est catastrophique. Et puis la plupart des personnes qui, comme toi ou comme moi, on a terminé les études secondaires, on parlait pas la langue, on savait rien faire en fait. On était incapable d'utiliser ce qu'on avait appris.
Oui, il faut dire que ça dépend de la personne, ça dépend du prof ou de la prof, mais en général, c'est le système scolaire qui ne marche pas. Ça signifie que c'est un système assez vieux. Je parle tout le temps de ça parce que je pense que c'est très important, en fait, de prendre conscience du fait que c'est pas seulement pour les langues étrangères. Je pense que le système en général devrait être complètement révolutionné et changé parce que les êtres humains sont plus que capables d'apprendre quoi que ce soit. Le problème, c'est comment on l'apprend. Si on nous sabotage, c'est le sabotage général. Après, c'est difficile. Et pas seulement ça. Je pense que, en fait, il y a trois choses très importantes dans le bagage, disons, d'apprentissage, de la façon d'apprendre quoi que ce soit. Et c'est pas seulement la façon d'apprendre, c'est aussi sa propre capacité de croire qu'on est capable de faire ça. Donc le mindset, les anglo-saxons, j'utilise ce mot, de mindset, la foi en ses propres capacités et la capacité de s'organiser. Je pense que au fil des années, je me suis rendu compte quand les gens me demandaient, par exemple, sur YouTube et sur le blog que j'ai, qu'est-ce que c'est que la méthode la meilleure pour apprendre les langues, ou oui, qu'est-ce qu'on fait pour parler comme un natif, la prononciation et tout ça. C'est important tout ça. C'est important d'apprendre à apprendre, mais c'est aussi très important l'aspect psychologique. Eh bien, l'aspect de l'organisation. Donc, comment est-ce qu'on organise son propre temps? Comment est-ce qu'on organise sa propre énergie? Donc, disons, la synergie de trois choses, la foi, disons, le pouvoir, la possibilité de croire en soi, l'organisation et après, apprendre à apprendre. Donc, c'est ça, en fait, disons, la pyramide de l'apprentissage. Je me rappelle pas comment elle s'appelle, la psychologue qui a parlé de ça. Kruger, je pense que elle s'appelle Kruger. J'en suis pas sûr. Après, je te dirai après le podcast. Mais en faisant beaucoup d'études sur la psychologie d'apprentissage, parce que ça me passionne énormément, je me suis rendu compte que ça, c'est les trois choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, foi, disons, au mindset. Je sais pas s'il y a un mot, mindset en français.
Oh
Mindset.
non, c'est une expression difficile à traduire en français. Peut-être volonté, mais c'est pas exactement la même chose.
Moi, je dirais la vision qu'on a de soi et de l'apprentissage, après l'organisation et après le learning how to learn ou bien apprendre à apprendre.
C'est génial, hein, parce que évidemment, donc dans l'école à Learn French, il y a énormément de personnes qui viennent pour apprendre le français. Certains élèves parlent déjà plusieurs langues étrangères, donc ils savent comment apprendre une langue étrangère. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne parlent qu'une seule langue et sont adultes et commencent à apprendre une langue pour la première fois de leur vie. Et c'est vrai que c'est un apprentissage. Il faut apprendre à apprendre, même quand on est adulte. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question, language coach, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une bonne question parce que c'est un concept qui n'est pas très répandu, j'avoue. Ça commence à l'être. Language coach, la différence, c'est que language coach, c'est une personne qui, en fait, va t'aider, va te montrer, va te poser des questions pour que toi, tu découvres les possibilités que tu as. Donc, language coach, c'est comme faire du coaching, ça signifie pas enseigner directement. J'enseigne pas les langues étrangères. J'ai travaillé aussi avec beaucoup d'étudiants avec des langues que je maîtrise pas du tout ou je parle pas du tout. Par exemple, le vietnamien, juste pour faire un exemple, mais aussi d'autres langues que je parle pas parce que j'enseigne pas la langue. En fait, les personnes qui décidaient de travailler avec moi parce que je travaille plus comme language coach. Maintenant, je fais des cours. J'ai transformé tout ça dans des cours. Mais en général, à la base, le principe, c'est que on avait des conversations dans lesquelles je posais des questions pour voir tout d'abord comment c'était la situation. C'est quoi ta façon d'apprendre? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton histoire avec la langue? C'est quoi ta motivation? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux apprendre une langue? Et après, disons ensemble, on découvre tout ça sur les trois lignes dont j'ai parlé. Donc, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la mindset ou de la vision qu'ils ont et de la psychologie, de l'aspect psychologique. Et après, je leur dis, OK, qu'est-ce que c'est que tu fais au juste pour apprendre? Et après, on change la façon d'apprendre. Parce que je me suis rendu compte que, en particulier en ce qui concerne la façon d'apprendre, la learning how to learn ou la façon d'apprendre une langue étrangère, beaucoup de personnes le font de façon très inefficace parce que c'est l'hérédité de l'école. Donc, juste pour te donner un exemple, pour moi, faire des flashcards ou bien passer beaucoup de temps à faire des listes de vocabulaire ou étudier des règles de grammaire sans avoir le contact avec la langue, écouter, lire et tout ça, c'est une faute. C'est une faute stratégique et tactique. Et donc, on en parle. Et je leur dis, OK, bon, alors, tout d'abord, il faut voir, j'aime bien voir ce qu'ils font, et après leur faire changer d'avis. Au fil du temps, ils vont s'apercevoir, OK, bah, il y a en fait des façons beaucoup plus efficaces. Et la chose la plus importante, c'est de créer un programme, disons, c'est de créer un plan où l'étudiant apprend, il se marre bien en apprenant la langue, et en plus, il crée un plan qu'il peut en fait suivre pendant des mois, et des ans, parce que le problème, c'est que pour apprendre une langue étrangère, c'est un marathon, comme on dit, c'est pas une banalité de dire ça, parce que dans le monde aujourd'hui, les gens veulent apprendre très vite. Au bout de 3 mois, elles veulent parler une langue couramment, c'est pas possible.
Mais oui, c'est pas possible. J'ai fait d'ailleurs un épisode là-dessus il y a quelques semaines. Est-ce que c'est possible de parler, d'apprendre une langue en 3 mois? Moi, je suis contre ce marketing, personnellement, de parler français en 3 mois, parler français en 6 semaines. Ça dépend de plein d'aspects. Si la personne déjà a le même alphabet. Si elle a déjà appris plusieurs langues étrangères ou non, c'est comme tu dis, c'est un marathon, c'est long d'apprendre une langue.
C'est long. Et quand on dit, qu'est-ce que ça signifie au juste de parler une langue étrangère? Si parler une langue étrangère, ça signifie communiquer de façon très basique. Alors, dans certains cas, par exemple, si on est italien, je suis italien, j'apprends le catalan, c'est possible au bout de quelques mois, 3, 4, ou 6 mois, communiquer, mais parler une langue étrangère, ça signifie maîtriser, je sais pas si ça existe, en fait, maîtriser, mais si, parler une langue. Oui, non, je dis ça existe, mais je sais pas si ça existe le concept de maîtriser une langue étrangère, parce que personne ne maîtrise vraiment une langue étrangère, c'est trop complexe.
Oui.
C'est ça ce que je voulais dire. Mais en général, communiquer, c'est possible, mais parler, tout dépend de la définition de parler une langue étrangère. Mais en général, oui, c'est le marketing. Parce que 3 mois, les gens, tu vois, ils ont hâte, ils ont pas la patience. Avec Internet aussi qui a changé la perception qu'on a du monde, on veut tout et tout de suite.
Oui.
Donc c'est plus facile de vendre en fait des produits si l'on dit, au bout de 3 mois, tu vas parler couramment une langue. C'est pas vrai. Mais nous, on le sait. Beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de l'apprentissage de langue, ils pensent, ah oui, 3 mois, alors je commence et tout ça. Donc, c'est assez complexe. Mais en général, oui. Si tu parles avec quelqu'un qui a une certaine expérience avec l'apprentissage de langue, des langues étrangères, ils te diront, 3 mois, ça suffit pour communiquer de façon basique, mais parler une langue étrangère ou bien maîtriser ou quoi que ce soit, ça prend des années, des années.
Des années, des années. Et on n'arrête pas d'apprendre une langue étrangère. Donc, comme tu dis, même si tu as un niveau avancé, tu continueras à apprendre de nouveaux mots. Même moi, en français, et j'imagine que c'est la même chose en italien pour toi dans ta langue maternelle, tu découvres encore maintenant des nouveaux mots dans ta propre langue maternelle.
Ah bien sûr, tous les jours. En fait, si tu commences à lire, parce que normalement les mots et les paroles qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est plus ou moins toujours les mêmes, mais si tu commences à lire, si tu commences à voir des trucs, par exemple, je sais pas, et en particulier à lire, parce que je pense que la lecture, ça fait une énorme différence, surtout au niveau intermédiaire et au niveau avancé, tu vas découvrir des mots. Je me rappelle, je sais pas si tu connais Calvino, Italo Calvino.
Non.
Italo Calvino, c'est un écrivain, c'est l'un de mes écrivains préférés de l'histoire de la littérature italienne. Et je me rappelle que quand j'ai, je pense qu'en français c'est le Baron Percé, j'ai la version en français aussi. Mm-hmm. Ça commence avec une page et la première page, en fait, il y a 10 mots que je connais pas. Et j'étais choqué. J'étais absolument bluffé parce que je me disais, ouais, est-ce que je suis italien ou quoi? Est-ce que ça c'est l'italien? Donc j'ai cherché ces mots. Et c'était, bon, c'est vrai que c'est pas un langage qu'on utilise, un type de langage qu'on utilise tous les jours, mais de toute façon, je me suis rendu compte. En fait, il faut être humble avec les langues étrangères parce qu'il y a toujours beaucoup de choses. La plupart des choses, on connaît pas, en fait. On pense connaître, mais on connaît pas. Et ça fait 30 ans que je parle français. Non, je sais pas si ça fait 30 ans. J'ai commencé à apprendre le français il y a 30 ans. Mm-hmm. J'ai vécu en France. J'ai fait une école en France et j'ai eu une copine française. Et encore, je fais des fautes. Il y a des gens qui me corrigent ou j'ai beaucoup de mots que je connais pas ou des expressions. Donc, on finit jamais. Ça finit pas. Ça se termine pas. C'est un voyage. C'est un voyage qui finit jamais.
Ouais, exactement. Pour les personnes, par exemple, quand on me pose la question en combien de temps je vais parler français si je suis en cours avec toi, moi je dis toujours il faut minimum 2 ans pour parler français couramment. Minimum.
Minimum.
Voilà. Ouais. Si la personne fait des pauses, il faut doubler le temps. Donc il faut, si la personne travaille, si elle a des enfants, si elle voyage, si elle veut faire des pauses de 3 mois, bah ça sera beaucoup plus long. Mais le moins de 2 ans, ça me paraît vraiment. Impossible de maîtriser une langue, enfin maîtriser, comme tu dis, pouvoir parler et être à l'aise. Et puis aussi, ça va dépendre du niveau de qu'est-ce que ça veut dire parler français couramment. Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est juste pour interagir avec son chéri ou avec la belle famille? C'est aussi les objectifs. En fonction des objectifs de la langue, le temps, ça peut être plus long. Par exemple, apprendre le français diplomatique, c'est peut-être un peu plus long qu'apprendre le français du voyage.
Tout à fait. Quand j'étais à l'ISIT, je ne sais pas si tu connais l'ISIT et l'ESIT, c'est une école, une grande école d'interprétation et de traduction à Paris. Mm-hmm. C'était très difficile parce que si tu veux travailler comme interprète, tu dois connaître en fait pas seulement la langue, c'est toujours la culture. Donc parler, et si ton but c'est de communiquer en français, c'est une chose. Si ton but c'est de travailler en tant qu'interprète, dans des institutions ou quoi que ce soit, même dans notre situation et circonstances, c'est très important de connaître des aspects culturels français. Par exemple, je me rappelle qu'avec ma prof de français, elle se plaignait du fait que je connais pas l'abbé Pierre ou quoi que ce soit. Ah. Et donc, ah ouais, tous les Français connaissent l'abbé Pierre ou Coluche, par exemple. Juste un autre exemple de... c'est quoi que tous les Français connaissent? Le Coluche, l'abbé Pierre, c'est des choses culturelles, c'est pour la communication, ça c'est pas strictement nécessaire, mais ça vraiment dépend de ton but, en fait. Et mon but, c'est de connaître pas seulement le français, mais aussi la culture, parce que je suis fasciné par la culture en général. Je pense que la culture et la langue et la culture, c'est la même chose pour moi. Donc, je me contente pas de simplement parler une langue, je veux, en fait, aller en profondeur et comprendre plus en profondeur la culture, la mentalité, l'histoire et tout le reste.
C'est super intéressant ce que tu dis. Un jour, je suis partie voir un humoriste francophone avec une amie américaine qui a un niveau en français, niveau avancé. Donc, je pense qu'elle doit avoir un niveau C1 confirmé. Et donc, on va voir cet humoriste ensemble. Et il y avait énormément de références culturelles françaises. Mais il y avait que ça. Et donc, en fait, moi, évidemment, j'ai rigolé pendant tout le spectacle. Et ben, pour elle, étant donné qu'elle n'avait pas eu connaissance, bah, donc, du type l'abbé Pierre, Bernard Tapie, Coluche, tous les hommes politiques, en fait, il y a plein de blagues qu'elle n'a pas pu comprendre. Et en fait, donc, elle parle très, très bien. Mais après, tout l'aspect culturel, en fait, elle était complètement perdue. Après, elle était un peu frustrée. Je comprends. Mais c'est vrai qu'apprendre une langue, il faut apprendre aussi la culture. Avec, si on veut pouvoir être connecté avec les locaux, évidemment.
Ah, tout à fait. Je me rappelle encore du papa de mon ex-copine qui m'enseignait les tontons flingueurs, c'est les films cultes, le bourre-pif et tout ça. C'est des choses que j'ai appris, à la base, je les ai apprises en France, en vivant avec sa famille, en allant à l'école. J'ai passé 3 ans, je crois, à Paname ou Paris. J'aime bien qu'ils disent Paname.
Paname.
C'est rigolo quand je dis Paname. C'est Paris. Oui, en fait, je pense que si j'avais pas vécu à Paris ou si j'avais pas, pas eu une relation avec mon ex-copine et sa famille, surtout sa famille, je pense que ça aurait été compliqué. En plus, sa famille en général, était très passionnée par la littérature, le cinéma, le théâtre. Donc, on faisait tout le temps, on faisait des conversations philosophiques et m'enseignait des trucs. J'avais des livres d'expression française, l'histoire des expressions françaises. Donc, en particulier, j'ai vécu dans un environnement très avantageux pour l'apprentissage et le perfectionnement du français, de la langue française, disons.
Donc là, vous l'avez compris, en fait, il y a un petit conseil pour si vous voulez améliorer vos connaissances de la culture française, n'hésitez pas à rencontrer un ou une chérie française ou francophone, comme ça, évidemment, ça booste toutes vos connaissances sur la culture française. Très bon conseil.
Ça va dans les deux directions, parce que c'était, en fait, quand j'ai rencontré mon ex-copine, c'était à Prague et elle était avec deux copines à elle et moi j'étais avec deux copains à moi, des amis, et donc ils avaient commencé à parler français. Comme j'étais là, je prêtais l'oreille, je me suis dit, ah, est-ce que vous êtes française? Et après, je me rappelle très bien, comme si c'était aujourd'hui, que mon ex-copine, elle m'a dit, ah, mais tu parles français, mais tu parles français très bien, comment ça se fait? Et après, on a commencé, tu vois. Donc, on a commencé à parler, et après, donc, le français, le fait de parler français, ça m'a aidé à rencontrer, à connaître, à créer un bond, disons, un lien entre moi et mon ex-copine. Et après, le fait que je parlais français, ça a aidé énormément parce que sa famille, en général, ne parlait pas du tout anglais. Donc, si j'avais pas parlé français, pas du tout, ça aurait été très difficile. Parce que quand on rencontre une personne, après, si c'est sérieux, tu vas nécessairement rencontrer sa famille et ses amis. Et en France, comme en Italie, beaucoup de gens ne parlent pas anglais. Donc, parler français, c'est un avantage énorme. Et donc, et après, bien sûr, si tu parles une langue, ça aide à rencontrer des gens. Après, une fois que tu as établi une relation avec un partenaire, une fille, un mec, après, ça va t'aider à développer, en fait, tes connaissances. Surtout parce que si tu parles pas la langue, et si tu commences à parler français, quand tu commences une relation dans une langue, après, c'est assez difficile de la changer.
C'est vrai. Ça, c'est une des difficultés que je rencontre avec mes élèves. Donc, il y a beaucoup d'élèves dans l'école à Learn French. Ce sont des personnes qui sont en couple avec un francophone. Donc ça, c'est le public chéri de Learn French. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me disent, c'est très difficile de changer. Maintenant qu'on a commencé à parler anglais entre nous, son anglais est extraordinaire ou son espagnol est super bon et on n'arrive pas à changer et à passer au français. Donc, c'est vrai, il faut dès le début imposer le français. Sinon, après, pour changer la langue, ça devient très compliqué, surtout avec les habitudes.
Ouais, c'est difficile. C'est possible de changer, mais c'est difficile. Il faut avoir des stratégies, il faut avoir beaucoup de motivation, il faut se mettre. C'est mieux de commencer... C'est mieux de commencer dès le début, mais bien sûr, ça dépend des circonstances existentielles de chacun. Donc, mais oui, c'est une histoire très, c'est très répandu, ça. C'est très commun de voir des couples qui commencent surtout à parler surtout en anglais parce que c'est la langue vécue vernaculaire. Comment est-ce qu'on dit? Bon.
La langue de communication.
La langue de communication, voilà.
Luca, j'ai une question à 1 million d'euros. Déjà, première question. Tu as appris combien de langues depuis que tu as commencé ton aventure avec les langues étrangères?
Alors, disons que c'est une question un peu tricky, dans le sens que si je dis je parle 15 langues, c'est une chose, mais ça, disons que ça fait 30 ans, j'ai commencé il y a 32 ans, quand j'avais 10 ans, disons officiellement, parce que quand j'avais 6 ans, j'ai pas trop appris en fait l'anglais, un peu. Ça fait 32 ans que j'apprends 15 langues, 16 si on considère le latin, mais le latin c'est pas une langue que je parle, c'est une langue que j'étudie. Donc disons que ça fait 32 ans que j'apprends 15 langues. Voilà. Après, en ce qui concerne la maîtrise, je pense que j'en parle 10 couramment.
Oh, wow.
Plus ou moins, pas, ça dépend. En fait, 6 comme je pense l'anglais, le français, l'allemand, le russe, le polonais et l'italien, c'est des langues que je parle presque tous les jours. Bah, le français pas trop en fait, mais j'ai pas oublié le français, ça s'est resté dans la tête. Donc c'est des langues que je maîtrise à un bon niveau, qui me permet de faire de tout faire. Je en français par exemple, je peux avoir une conversation avec toi, je peux regarder les news, je peux regarder les films, je comprends pratiquement tout. Donc Le français, c'est vraiment, c'est une langue qui fait partie de ma vie. Mais aussi, il y a d'autres langues qui font partie de ma vie maintenant, comme l'italien, l'anglais, le polonais et d'autres langues.
16 langues, tu as appris 16 langues en tout. Ben, c'est un peu, enfin, c'est pas comme moi du tout. Moi, je suis pas à 16. Moi, je suis à 7 langues, mais je précise toujours que voilà, j'ai appris, donc j'ai étudié 7 langues, mais j'en maîtrise 4. Couramment.
Voilà, c'est important de distinguer le j'étudie, j'apprends ex langue et après j'en maîtrise 2-4. Dans mon cas, je sais pas si je veux utiliser le mot maîtriser, mais de toute façon, je pense que j'ai acquis un très bon niveau, disons, dans 10 langues qui me permet de tout faire. Je pense que quand t'es capable de tout faire, c'est-à-dire d'avoir des conversations avec sur Skype, d'avoir des conversations avec des gens, de comprendre la télévision, de comprendre le film, et je pense que t'as acquis un niveau très élevé. Donc c'est le moment où tu peux jouir de la langue. En fait, et t'as pas besoin d'étudier des règles de grammaire ou de quand tu lis un livre de regarder dans le vocabulaire la signification des mots. Ça c'est pour moi. Ça signifie parler bien, parler une langue couramment, disons. J'en parle 10 plus ou moins de cette façon, disons.
Extraordinaire. J'imagine qu'on te pose souvent cette question, enfin, ou qu'on te fait souvent cette remarque, peut-être dans les commentaires de tes vidéos sur YouTube, c'est « je veux parler cette langue comme un natif » ou « je veux parler cette langue sans accent ». Quel est ton avis sur cette question ?
En général, le problème, c'est que parler comme un natif, même si l'on parle une langue très bien, disons que... le niveau de natif, c'est pas si facile que ça. Il faut vivre dans un pays parce que c'est pas suffisant d'avoir des conversations sur Skype. C'est même pas suffisant d'avoir une copine ou un copain parce que tu dois vivre la langue dans l'environnement. Donc, dans mon cas, par exemple, pour te donner un exemple concret, je me suis rendu compte que sans vivre, comme j'avais dit auparavant, si j'avais pas vécu en France, je saurais pas beaucoup de choses, beaucoup d'aspects culturels, le théâtre, la télévision, les références culturelles. Donc, pour moi, c'est un objectif que c'est possible d'atteindre si tu vas vivre dans un pays. Et même si tu vis dans un pays, tu dois vivre la langue tous les jours, possiblement dans une famille, ou possiblement avec ta copine ou ton copain. Et après, tu dois lire beaucoup, beaucoup lire. Tu dois faire un tas de choses et tu dois le faire pendant 10 ans, 15 ans. Donc, c'est possible, mais la question la plus importante, c'est pourquoi et si ça vaut le coup. Pour moi, la chose la plus importante, en général, dans les langues étrangères, c'est d'avoir des buts réalistes qui soient, par exemple, parler une langue bien. Après, si tu veux vraiment parler comme natif, tu peux le faire, mais ça va prendre 10 ans, ou 10 ans en vivant dans un pays, dans des conditions particulières. Donc, c'est possible, mais ça requiert des circonstances très, disons, spécifiques. Et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que ça vaut le coup de parler français, anglais, quoi que ce soit, allemand, comme un natif? Je sais pas. J'en suis pas sûr. Parce que la langue, ça, c'est pas, tu vois, j'ai l'impression que parfois, on voit la langue comme une performance. Ah ouais, je dois parler parfaitement. Il a fait des fautes. On voit sur Internet, on voit sur le commentaire de YouTube, et pas seulement sur les commentaires de YouTube, que les gens ont cette mentalité de, ah, il a fait une faute. Donc c'est la langue, elle n'est pas vue comme un moyen de communication, elle est vue comme un moyen sur la base duquel on va juger les gens. Et ça vient de l'école, de la mentalité de l'école. Donc ça c'est une chose. Et quant à l'accent natif, ça c'est intéressant. Je pense que ça aussi c'est important de souligner que ça vient de la psychologie et la mentalité. Il y a un article très intéressant, je ne sais pas si tu connais, c'est un linguiste assez connu, Stephen Krashen, qui a écrit un article, je ne me rappelle pas exactement du titre.
Les amis, je vais essayer de le trouver, si je le trouve, il sera dans les notes de l'épisode ou sur la transcription.
Oui, je crois que c'est « A conjecture about accent in a second language ». Donc, c'est je ne sais pas si en français on dit « conjecture », mais c'est une hypothèse sur l'acquisition d'un accent étranger, d'un accent dans une langue étrangère. Et à la base, il dit que ça n'a rien à voir avec l'entraînement, ça a à voir avec la psychologie. Je suis tout à fait d'accord. Donc, quand il s'agit de parler comme un natif, avec un accent natif, je pense que la psychologie, la volonté inconsciente de sonner comme un natif, de parler comme un natif, d'être comme un natif, ça joue un rôle énorme. Après, quand on dit « Ah oui, bah, tu as une oreille exceptionnelle », Je crois pas que savoir avec l'oreille, savoir avec le cerveau et savoir avec la psychologie. Les enfants, par exemple, quand ils ont 3 ans, 4 ans, avant, disons, quand ils sont très jeunes, ils apprennent une langue, quoi que ce soit la langue, leur langue maternelle, même aussi d'autres langues, parce que le facteur psychologique est le facteur le plus important. Ils n'ont pas, cette langue, c'est une performance, je dois apprendre, et ils n'ont pas de peur. Ils n'ont pas peur d'être jugés, ils n'ont pas peur d'être jugés, et ils sont comme des éponges. Donc, savoir avec la psychologie, c'est possible, mais je te dis, en tant que language coach, parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants qui sont venus à moi et qui m'ont dit, est-ce que je peux parler comme un natif? Est-ce que je peux avoir un accent comme un natif, parler comme un français, parler comme un américain? Je leur dis, si ça fait 10 ans que tu parles une langue avec cet accent, si tu as un accent à couper au couteau, expression française, après, ça va être très difficile de changer. Parce que le cerveau, il est très bon à apprendre, mais il n'est pas très bon à, je ne sais pas si en français on dit désapprendre.
Désapprendre.
Mm-hmm. Non? Et donc ça, c'est très difficile si ça fait 2 ans ou 3 ans que tu as pris des patterns, si tu as pris des, disons, ta prononciation, ton intonation est étrangère, et ça va être compliqué. Ça va être compliqué de changer, donc c'est pas très réaliste, ça vaut pas le coup. La question, c'est toujours, est-ce que ça vaut le coup? Si ton accent est compréhensible, je sais que peut-être en tant que language coach, je devrais pas parfois dire des choses qui sonnent décourageantes, mais je pense que c'est très important de comprendre tout de suite c'est où que tu vas mettre l'énergie, ton énergie, ton temps, investir ton temps. Et je pense que l'accent, si tu commences à l'apprendre dès le début, c'est une chose, mais si ça fait 2-3 ans que tu as un accent à couper au couteau ou tu as un accent très fort, l'important c'est d'être compris. Tu peux prendre des cours sur le accent reduction, ça va pas changer la situation.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs, le nom de l'épisode c'est « Oui, j'ai un accent et je t'emmerde ». Donc évidemment, je parle de l'accent, accentisme, glottophobie qui est très très prononcé en France, surtout à Paris. Et moi-même, quand je parle français, j'ai un accent, tous mes amis ont des accents, pour moi un Parisien il a un accent. Et
bien sûr.
Il y a plein de personnes qui complexent, et surtout ceux qui habitent à Paris et qui en ont marre, qu'on leur dise « Ah, t'as un accent, ça vient d'où ?» Ou par exemple, les personnes du sud de la France, quand ils viennent à Paris, on dit « Ah, ton accent, ça me rappelle le soleil, c'est chantant, ça me rappelle les vacances. » Par exemple, dans un contexte professionnel, ces personnes, elles en ont marre d'avoir des remarques sur leur accent. Et moi aussi, le nombre de fois où je ne suis pas rentrée dans un restaurant à Paris, le français, c'est ma langue maternelle. Donc, je parle français depuis que je suis née. Et le nombre de fois qu'on m'a demandé dans les restaurants si je voulais le menu en anglais. À Paris.
Oui, ça suffit. Ouais, c'est surtout à Paris. Paris, c'est en fait à Paris et en France, la situation est un peu particulière parce que d'un point de vue, disons, géopolitique, oui. Politique, culturel, Paris, c'est très centralisé. Paris, c'est le centre de tout. Les gens à Paris pensent, oh, je suis mieux. Ils regardent en fait un peu, tu vois, les gens du sud comme, ah, t'as un accent, c'est mignon, mais ils sont pas pris au sérieux, les gens du sud. Donc, je connais la situation, mais comme tu dis, justement, tout le monde a un accent. Tout le monde a un accent, c'est une identité. Donc, que ça, c'est une perception. Le fait qu'il y a des accents plus prestigieux que d'autres, c'est une perception historique qu'on a et c'est une illusion. Et en général, l'accent, c'est presque une caractéristique sociale, non? Même en Angleterre, par exemple, s'il y a un accent très fort dans les jobs interviews, dans les interviews d'embauche, c'est pas un avantage, disons. Mais moi, je dirais, comme je te dis, j'ai un accent, je t'emmerde, non? Je dirais,
ouais.
j'ai un accent, moi aussi, j'ai un accent de Rome. En Italie, c'est un peu différent parce que chacun a un accent, c'est pas si centralisé comme en France. Donc, mais en général, les gens de Milan, je suis de Milan, toi, t'es de Rome, là, le sud, donc il y a aussi un peu de discrimination linguistique aussi au sein de l'Italie. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans, je pense, presque tous les pays du monde. C'est un phénomène, en fait, humain. Mais je suis d'accord avec toi que l'accent, c'est pas si important que ça, tu vois. Une chose, c'est la prononciation, une chose, c'est l'accent, mais en général, quoi que ce soit ta prononciation et ou ton accent, je pense que la chose la plus importante qu'il faut pas perdre de vue, c'est la communication. C'est ce que je dis à mes étudiants et aussi les étudiants de mon école, je leur dis tout le temps, il faut se concentrer sur le message, pas la forme. Donc, se concentrer sur la grammaire, notre cerveau, déjà, notre cerveau, c'est assez compliqué, en fait, de communiquer dans une langue étrangère qu'on maîtrise pas. Si, en plus, on va penser, est-ce que j'ai utilisé la bonne règle grammaticale? Est-ce que c'est ma prononciation, elle est bonne ou non? Il faut se concentrer sur le message. Donc, le message, ça signifie d'écouter, de lire et écouter, de regarder beaucoup et de parler des choses qui sont intéressantes. Quand il s'agit, par exemple, de leçons sur Skype, je leur dis tout le temps, il faut pas que le tuteur, et ils parlent des choses qui intéressent à eux, mais il faut que toi tu parles comme si c'était un ami auquel tu veux raconter une histoire exceptionnelle et très très intéressante. C'est ça, c'est le message qui va déterminer en fait la forme et pas la forme le message. Ça c'est très important, c'est un change de mentalité, de mindset. Je pense qu'en français mentalité peut-être c'est un bon mot pour le mindset qui est très important parce que les gens, je pense que la mentalité de beaucoup de personnes qui, disons des débutants, même au niveau intermédiaire, c'est je me concentre sur la forme parce que je suis en train d'apprendre une langue, donc le tuteur doit me corriger et tout ça. Non, c'est la communication. Les enfants, ils apprennent à travers la communication. Et donc, c'est la communication, le message, le contexte qui génère l'apprentissage et pas le contraire. Et pour te dire une autre chose qui m'a beaucoup frappé, je l'ai ici, un bouquin qui s'appelle Explorations in Language Acquisition and Use. Et à la fin de ce livre, il parle exactement de ça. C'est, tu vois, elle dit, moi je traduis parce que je suis en train de lire ici. We first learn vocabulary, on apprend le vocabulaire, on apprend la grammaire, et après on pratique dans certaines situations pour les automatiser. Mais en fait, c'est exactement le contraire. Il faut en fait utiliser la langue et après on apprend. Tu vois, comme à l'école, tu fais des exercices de maths, tu prends, c'est la théorie. Après, tu fais les exercices. Pour les langues étrangères, c'est la même chose. Tu apprends des règles de grammaire, tu les appliques. Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait dans la vie. Ça peut être en fait surprenant, étonnant, parce que nous, on a toujours appris d'une certaine façon. On nous a jamais donné la possibilité de penser de façon alternative. Quand tu vois le pouvoir que les possibilités quand tu fais les choses de façon différente, ça change tout. Et quand les personnes me disent comment est-ce que c'est possible, t'as appris 15 langues, je leur dis c'est pas parce que je suis un génie, c'est parce que j'ai appris à utiliser bien mon cerveau. Et bien sûr j'ai discipline, j'ai beaucoup de motivation, j'ai beaucoup de raisons pour apprendre beaucoup de langues, mais sans ça, sans des techniques efficaces, ça va être très difficile de parler 15 langues et les garder en plus. Donc c'est pas moi, c'est ma façon d'apprendre les choses. Et c'est pas une exagération, c'est pas du marketing, c'est parce que je le vois avec mes étudiants aussi. Une fois qu'ils voient les techniques, les stratégies qui sont efficaces, tout change. Et c'est pas seulement leur façon d'apprendre qui change, mais aussi leur mentalité et leur façon de s'organiser. Et ça fait une énorme différence. Les trois facteurs principaux.
Extraordinaire. Du coup, je voulais aussi te poser une question. Selon toi, est-ce que c'est une bonne idée de commencer avec un professeur? Par exemple, on va imaginer une personne qui n'a jamais appris de langue étrangère. Elle parle qu'une seule langue et elle veut parler français. Elle veut apprendre le français. Quel est le chemin que tu lui recommandes? Prendre des cours particuliers, suivre une formation, apprendre à apprendre, prendre des cours en groupe. Quels seraient tes conseils pour cette personne qui va apprendre pour la première fois une langue étrangère et ce sera le français?
Excellent Yasmine, j'adore tes questions, ça c'est une très bonne question. Alors tout d'abord, je pense que une chose que tout le monde devrait faire, c'est de investir dans apprendre. Donc faire une formation apprendre, ça signifie passer du temps, des heures recherchant. Tu dois pas nécessairement acheter des cours, mais tu peux en fait faire une recherche sur internet pour regarder les choses qui ont en commun les gens qui apprennent bien les langues. Donc apprendre, ça signifie avoir des principes de base, un cadre, disons de référence qui va t'aider. C'est quoi les principes de base qui vont m'aider et qui vont donner une direction à mes études? Ça, c'est la première chose à faire pour moi. Ce que je ferais, par exemple, si je voulais apprendre à jouer la gratte, guitare.
Ouais, bravo.
La gratte, j'adore ce mot. Alors, donc, tout d'abord, ça, la formation, comprendre, en fait, les principes de base. Et c'est pas si difficile parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet. Il faut juste avoir la volonté de comprendre. comment ça marche. La deuxième chose, je dirais, une fois que tu as compris en fait les principes de base, je pense que c'est très important de donner la priorité à tu peux apprendre toi-même avec ce qu'on appelle input compréhensible, comprehensible mm-hmm. input. Il y a A6000, par exemple, qui est un cours que c'est pour débutants. Et pas seulement A6000, hein. A6000, c'est les Français qui le connaissent, mais pas seulement les Français, les Européens. Les Américains ne le connaissent pas, mais en général, il y a Teach Yourself, il y a une énormité de ressources. Et surtout, il faut pas, il faut pas passer, ça, c'est une faute que tout le monde fait. Disons, les débutants, ils pensent que, je veux acheter ça et ça et ça et ça et ça. Ils achètent 40 bouquins et ça, c'est la faute la pire que tu puisses faire.
Ouais.
C'est important d'en avoir une ou deux ressources. Il faut faire rechercher, c'est quoi la ressource qui va m'aider. Tu vas utiliser une ressource, deux ressources. Par exemple, je commence toujours avec A6000 ou bien une autre ressource. Il faut apprendre à l'apprendre. Ça, c'est très important parce que lire un bouquin, pour débutants, ça sert à rien. Il faut développer des habiletés. La langue étrangère, c'est la combinaison entre habileté et connaissance. C'est les mots que tu connais et c'est ta capacité de les utiliser pour véhiculer un message. Ça, c'est très important. Donc, la façon dont tu lises le bouquin, c'est très important. Et en plus, si tu veux faire une formation, tu suivre une formation à école, par exemple, ou avoir un prof privé, c'est bien, mais ça devrait être on top of. Ça devrait être la troisième chose. Le problème et la faute qu'on fait normalement, c'est de penser, OK, j'ai un prof, je prends un prof, il va m'enseigner la langue. Donc, tu commences à avoir un rôle passif, tu vois, à avoir une attitude passive. Parce que si tu as un prof, tu penses, tu as l'illusion que c'est le prof qui va t'enseigner la langue. Ah oui, j'ai passé une heure avec mon prof, ou bien deux heures, je vais passer chaque semaine. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau, disons. Ceux qui, à la base, les choses qui comptent, les activités qui comptent, c'est ce que tu fais tous les jours avec toi-même. C'est lire, écouter, des textes intéressants que tu puisses comprendre. Et après, si tu veux avoir un prof, ça peut être un avantage, mais pas le contraire. Moi, je l'appelle la pyramide de l'apprentissage. Et normalement, ce que beaucoup d'étudiants font, ils étudient, ils font grammaire ou flashcards, pas de input compréhensible, ils lisent peu, ils écoutent peu, et après, de temps en temps, ils parlent avec des profs, ils font révisent des règles de grammaire. Ça, si tu apprends comme ça, tu vas pas apprendre, ça va être frustrant, les thunes qui partent comme ça, c'est pas très efficace. Et après, tu te dis, ah oui, mais alors, je suis pas bon en langue étrangère. Non, c'est pas que tu es pas bon, c'est que tu le fais mal parce que t'as pas appris à le prendre. Et ça, c'est l'investissement le plus important que tu puisses faire, comprendre comment faire les choses. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai bâti mon canal de YouTube. Et après, je suis content que j'ai créé cette académie parce que je pense que ça, c'est ce qui manque. The know-how, en fait, comprendre, faire les choses. Ça, c'est ce qui manque. On a tout, là, Yasmine. C'est l'âge de l'information. On a tout. Tu peux tout trouver. Mais une chose, c'est l'information. Une chose, c'est la formation. Donc, la formation, ça te donne la possibilité de comprendre comment utiliser l'information. Mais l'information, là, tu peux avoir toute l'information du monde. Ça va pas changer les choses si tu sais pas comment faire les choses.
Oui, je te dis, moi j'ai des élèves qui arrivent au niveau débutant, qui sont complètement perdus parce qu'ils savent pas apprendre, ils ont pas appris à apprendre une langue étrangère, et donc ils dépensent beaucoup d'argent dans des cours particuliers, les professeurs ne savent pas non plus comment les former, ils arrivent pas à les motiver. Donc t'as raison, c'est peut-être une très bonne idée d'investir d'abord dans une formation de comment apprendre à apprendre une langue et ensuite prendre des cours pour perfectionner tout ce qui est grammaire, mais après, de d'abord se concentrer sur la communication. Moi, j'ai suivi une de tes formations que j'ai trouvée extraordinaire. Est-ce que, bon, évidemment, il y a ta chaîne YouTube, donc ça, c'est le contenu gratuit, mais les formations qui sont dans ton académie, est-ce que tu pourrais partager un petit peu avec les personnes qui te connaissent pas encore ou qui connaissent pas du tout tes formations, de quoi ça parle et quelle est la valeur ajoutée pour les personnes? Parce que j'imagine que c'est une formation pour des langues, pour toutes les langues étrangères, peu importe la langue, même... si c'est une langue qui n'est pas latine, par exemple.
Voilà, n'importe quelle langue, exactement. You can learn any language, on dit en anglais. Oui, exactement. Alors, je t'ai expliqué la raison pour laquelle j'ai créé en fait cette académie. Donc, j'ai travaillé en tant que coach pendant 10 ans. Après, je me suis dit, ok, bah les cours particuliers, j'adore travailler avec mes étudiants. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien aider plus de gens. Donc, j'ai créé il y a un an cette académie qui s'appelle Smart Language Learning Academy. Disons en français, on pourrait dire académie pour apprendre les langues de façon intelligente, smart. Disons. Et j'ai commencé, en fait, le premier cours que j'ai créé il y a un an, c'est un cours qui s'appelle la traduction bidirectionnelle. Donc, c'est un cours qui explique exactement le know-how, comment utiliser des ressources de base pour apprendre à développer des capacités, des habiletés. Donc, c'est un cours, ça s'appelle traduction bidirectionnelle parce qu'on utilise la traduction, on utilise des textes, par exemple, bilingues. Disons, si tu veux, si t'es anglais, tu veux apprendre le français, donc tu as un texte qui a des dialogues en français, ta langue cible, et tes dialogues et leur traduction en anglais que tu peux utiliser pour comprendre en fait la partie en français. Et la traduction, cette méthode, c'est une méthode qui utilise, disons, la traduction, exactement, pour pas seulement apprendre des mots, mais former des phrases. Donc, quand tu apprends. Tout d'abord, il y a l'étape de l'analyse et après, il y a l'étape de la synthèse. La synthèse, ça signifie quand tu retraduis vers ta langue cible. Donc, tu traduis tout d'abord vers ta langue maternelle. Tu peux écrire ça ou bien taper dans un Google Doc. Et après, quelques jours après, tu retraduis et tu vas voir que c'est un exercice complet. C'est un exercice qui comprend l'analyse parce que comprendre, c'est une chose, mais après, reproduire, c'est une autre. Et moi, j'ai commencé à apprendre cette méthode quand j'avais 15 ans avec l'allemand, qui était la première langue que j'apprenais moi-même, après l'anglais et le français que j'avais appris à l'école. Et je me suis rendu compte que c'était tellement efficace que je l'ai utilisé pour apprendre toutes les langues que je connais. Et après, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un de mes étudiants, quand j'ai commencé il y a 10 ans, qui en fait était très curieux parce que j'en ai parlé sur Internet sans en fait parler des détails. Et il y a des gens qui ont commencé à le faire, ils ont trouvé génial et donc j'ai décidé de faire ce cours pour des débutants. Mais je me suis aussi rendu compte en fait que le problème c'est que il y avait ce malentendu que la traduction bidirectionnelle c'est pas une méthode pour apprendre une langue pour parler couramment. Ça c'est une méthode qui va t'aider dans la phase la plus critique et délicate de l'apprentissage des langues, qui sont les premiers 3, 6 mois, parce qu'elle te donne une stratégie exactement ce qu'il faut faire. Ça prend 1 heure par jour et tu sais exactement ce qu'il faut faire et tu vas développer la lecture, l'écoute, l'expression orale, l'expression écrite. Mais c'est pas que en utilisant cette méthode, tu vas parler une langue couramment. Après, tu as besoin de beaucoup d'autres choses. Je dis tout le temps que ma façon d'apprendre les langues, c'est une combinaison de stratégies qui évoluent dans le temps. Donc, une fois que tu as fini avec Assimil ou une autre ressource pour débutants, et une fois que tu as fini, tu as utilisé cette méthode, appliqué cette méthode à cette ressource, après, il y a une autre phase qui est la phase intermédiaire dans laquelle tu as besoin d'autres stratégies. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai créé ce cours que j'ai créé cette année. En 2022, dont je suis très fier, disons, c'est une série de stratégies qui t'enseignent à apprendre à fluency, ce qu'on appelle fluency, à parler une langue couramment. Donc de A2, disons, à B2. Et après, on fera aussi le troisième cours, qui est B2 natif. Mais ça, c'est pour l'année suivante. Mais de toute façon, j'ai ces deux cours qui sont complémentaires et qui marchent très bien. Et on est très fiers, moi et mon équipe d'avoir fait ça, et les gens, ils se marrent, la chose qui me rend très heureux, c'est de voir la transformation de la mentalité des gens. Ah, moi, je pensais comme ça, maintenant, je pense comme ça. Maintenant, je sais que je peux faire ça. Je peux parler une langue, quoi que ce soit, n'importe quelle langue, couramment. Et tu le fais à travers, bien sûr, l'application de ces stratégies. Et comme je t'avais dit au début du podcast, la stratégie, c'est pas seulement learning how to learn, c'est pas seulement les techniques, c'est aussi la mentalité et l'organisation. Ces trois facteurs sont très très importants. Et sans organisation, si tu as la mentalité et le know-how, c'est bien, mais tu vas pas apprendre une langue long terme si t'as pas d'organisation. Et donc les trois sont nécessaires. Et on a bâti cette académie sur ces trois lignes principale, disons.
Magnifique. Et en plus, il y a un petit cadeau pour les personnes qui écoutent ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus?
Oui, le petit cadeau, c'est que pour les gens qui décident, qui s'y ont envie d'explorer l'académie, la Smart Language Learning Academy, il y a un discount, non? Donc, vous allez trouver probablement dans les notes. Et donc, si vous avez envie d'explorer ce monde de Smart Language Learning, vous en avez la possibilité.
Franchement, moi, je vous recommande cette formation. J'ai suivi donc celle de la traduction bidirectionnelle et je l'ai trouvée fantastique. Donc, je la recommande. Même moi, donc j'ai déjà appris plusieurs langues. J'en parle plusieurs aussi. Et en fait, il y a plein de techniques que je connaissais pas du tout. Et c'était vraiment super intéressant. Donc, franchement, je recommande de suivre ces formations, même si vous parlez déjà plusieurs langues. Et surtout, si vous en parlez pas du tout, c'est super intéressant. Luca, pour les personnes qui veulent te suivre, être en contact avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver?
Alors, lucalampanello.com, c'est assez facile. Et c'est mon site. Ils peuvent m'écrire là-bas directement s'il y a la possibilité d'envoyer des messages. Ou bien lucalampanello sur YouTube. Et donc c'est assez facile. En fait, c'est mon nom. On le tape sur Google, il me trouve tout de suite. Et ça, c'est le site. En fait, c'est la plateforme la plus importante où vous allez trouver mon blog, mes cours et aussi la possibilité de m'écrire directement. Je suis à votre disposition.
Merci beaucoup. Une dernière question, un petit conseil. Si tu pouvais donner un conseil à une personne qui a envie d'apprendre le français ou qui apprend le français pour le moment et qui a besoin d'un boost parce qu'elle a perdu la motivation. Est-ce que tu as un petit secret ou un petit conseil à partager avant de nous quitter?
Oui, mon petit conseil, ça serait en fait de travailler sur la raison pour laquelle tu apprends le français, parce que si on connaît sa propre raison, on va trouver la façon d'apprendre. Je pense qu'une chose, un petit exercice que j'ai toujours fait avec mes langues, c'est de prendre 20 minutes dans le silence, dans un complet silence complet, et d'écrire en fait une petite histoire de toi d'ici quelques années, d'ici un an, et tu peux visualiser en fait qu'est-ce que ça va se passer quand je vais parler français couramment, avec qui est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais ressentir. Je pense que se connaître, créer une connexion avec toi dans le présent et toi dans le futur, quand il s'agit d'apprendre une langue étrangère, c'est très très important. C'est plus important que les techniques, c'est plus important que les principes, c'est plus important que les stratégies. C'est vraiment de créer un futur, d'imaginer un futur en parlant le français, et après de créer ce futur en appliquant les techniques que tu vas apprendre. C'est
magnifique.
Ça mon petit conseil.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité dans ce podcast aujourd'hui. La conversation était super intéressante. C'était vraiment un plaisir.
Merci Yasmine, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir pour moi aussi.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, à toutes, ciao.
Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt !